Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quarterback, Stanford University.
Luck in the pocket. He throws middle, caught, touchdown. What a throw by Andrew Luck. Griffin 12 of 14, 118 yards passing, in trouble here. And doesn't go down. Griffin inside the 10. Heisman touchdown.
The first pick in the draft, the Indianapolis Colts select.
Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue en direct sur le podcast de Jean Actu. On est exceptionnellement en direct pour le premier tour de la draft NFL 2012. On va vivre cet événement avec vous pendant près de 3h30. C'est le temps que ça a duré l'an dernier. Mettez-vous à l'aise, café, Red Bull, Coca, tout ce qui est sucré, tout ce qui est de la caféine. On va profiter de tout ça, on va passer un bon moment. À mes côtés ce soir, il y a du monde, on fait les présentations. Il y a d'abord Guillaume Soquet qui est assis à ma droite. C'est notre expert, notre Mike Mayock à nous. Il m'a demandé de préciser ça. Salut Guillaume.
Salut Alain.
Vous l'avez entendu bien sûr dans le podcast la semaine dernière, alors que Roger Goodell fait son entrée sur le podium. Pour présenter tout ça. Devant son propre écran, responsable du chat, il parle déjà avec vous, il sera votre voix pendant cette nuit, c'est Raphaël. Salut Raphaël, bienvenue à toi.
Salut à tous.
À la technique, c'est Camille qui est toujours là. Désolé, il n'a pas de micro devant lui, mais il vous dit bonjour Camille.
Salut.
Et voilà, Camille toujours fidèle au poste et qu'on remercie déjà pour l'installation qu'il nous a fait, qui nous permet de retransmettre en direct. Voilà pour les présentations. Comme on vous l'a dit, Raphaël et votre voix sur le chat, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, hein, on checkera avec lui régulièrement pour voir comment ça se passe. Au programme de la soirée, 32 choix. Chaque équipe a 10 minutes pour choisir son joueur. Les Colts seront les premiers à être on the clock, c'est comme ça qu'on dira. Vous ne manquerez rien, hein, parce qu'on a, on a des alertes pour tout. On a des alertes pour vous signaler que Roger Goodell arrive sur le podium. On a des alertes pour dire qu'il va annoncer la nouvelle. On a des alertes pour les trades. Tout est prêt. On espère que vous êtes en forme. Un petit détour sur le chat, Raphaël, déjà. Il y a des remarques intéressantes.
Oui, il y a des remarques pour Guillaume. On lui reproche de se la raconter, à se faire passer pour Mayock, mais bon,
ah, voilà.
C'est bon, du chambrage.
C'est vrai, c'est pour plaisanter, c'est moi qui lui ai dit ça, c'était pour le mettre mal à l'aise. Allez, on a vu donc Roger Goodell déjà à l'écran pour présenter un peu, hein, cette draft. On a déjà vu aussi Andrew Luck au téléphone. On va pas vous cacher qu'il n'y a pas beaucoup de suspense pour les deux premières sélections. La première info du soir, c'est le premier trade qui a eu lieu il y a à peine une heure, hein, grosso modo, entre les Browns et les Vikings. Les Vikings cèdent leur troisième choix de la draft aux Browns. Les Browns passent de la quatrième à la troisième place. Et inversement, donc les Vikings descendent. Et en plus, Minnesota récupère des choix du quatrième, du cinquième et du septième tour. Bonne affaire.
Bonne affaire pour Minnesota.
Pour Minnesota.
En même temps, au niveau de la valeur des picks, même si ça varie selon les équipes, ça se tient. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est le move de Cleveland, parce que c'est pas une équipe qui peut se permettre de perdre des choix de draft.
Alors, Trent Richardson, peut-être. Bon. On va voir si c'était pour ça. On a beaucoup parlé, hein, de rumeurs de trade ces derniers jours. On vous rappelle que les salaires des rookies sont bloqués, hein, maintenant. Donc, on n'a plus d'énormes contrats comme avant. C'est un peu moins risqué de prendre des choix hauts. Donc, peut-être encore plus de trades. ouais, draft folle.
C'est l'objectif.
Bon, ça peut être le Far West. Hein. Alors, après les deux premiers choix qui sont justement Luck et Robert Griffin, visiblement, après ça, tout est possible.
Y a quand même 6 prospects, on va dire 5 ou 6 prospects qui sont élites.
Et d'ailleurs, on a le premier choix qui arrive, Roger Goodell. Et Andrew Luck est sélectionné. Voilà, comme prévu, on voit Andrew Luck qui se lève, il est au téléphone, il serre là, ça doit être sa maman dans les bras. Et c'est parti pour cette draft. Voilà, Andrew Luck, on lui met un petit pins, qu'est-ce que c'est, NFL ? On lui met quelque chose sur la veste, voilà, il va aller serrer la main. Qu'est-ce qu'on lui met alors ? Ah voilà, c'est un petit pins des Colts, voilà. Andrew Luck qui serre la main de tout le monde. Andrew Luck, on vous le présente le temps qu'il arrive sur le podium. On l'a déjà pas mal présenté. Quarterback de 22 ans de la fac de Stanford. 1m93, 106 kg. Les stats 2011, 288 passes complétées, 404 tentées, 3517 yards, 37 touchdowns, 10 interceptions. Et voilà, il serre la main de pas mal de monde. Il est suivi par les caméras. Il est heureux. Bon, il a le bonheur modéré, Andrew Luck. Il saute pas partout non plus. Et il met sa petite casquette et il va aller serrer la main du commissionneur. Choix logique.
Oui. Andrew Luck, c'est le rêve d'un scout, comme on l'a abordé plusieurs fois pendant les podcasts. C'est le quarterback le moins risqué à se présenter à la draft depuis une dizaine d'années.
Alors, Andrew Luck, qui est en train de recevoir son maillot, voilà, il y a déjà le numéro 12. Alors, c'est 12 parce que c'est son numéro ou parce que c'est 2012. Bon, là, ça marche pour les deux. Hein. Mm. C'est l'avantage avec lui. Il est content. Bon, ça, c'était très prévu. Je ne sais même pas si on a démarré l'horloge hein, pour les Colts, tellement c'était prévu. Voilà, on a le droit à la petite présentation. Alors, je suppose que personne n'est surpris, Raphaël, sur le chat.
Non, effectivement, tout le monde s'y attendait. Un peu d'ironie pour la surprise Luck, mais enfin...
Allez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Hein. Raphaël est là pour transmettre. Sur Twitter aussi, si vous avez envie, @touchdownactu.
Si, par contre, il y a déjà pas mal de critiques sur les nouvelles casquettes. Pour la plupart des gens, elles sont horriblement moches.
Ah, les casquettes New Era, ouais, qui font pas recette... Visiblement, c'est pas le gros box-office hein, depuis qu'elles sont en vente. Alors, on a pas mal parlé hein, d'Andrew Luck déjà dans beaucoup d'émissions précédemment. On en a beaucoup parlé dans le podcast aussi avant. Passeur complet, donc comparé à Peyton Manning, parce qu'en plus il arrive à Indianapolis, ça tombe bien. Comparé aussi à John Elway pour la mobilité, un petit peu. Mm-hmm.
C'est un mélange des deux. Il gère son attaque comme Peyton Manning et il a la mobilité de John Elway.
Et il est aussi capable de réceptionner le ballon à une main, comme il l'a montré.
De temps en temps, quand on lui fait faire.
On voit sur les highlights de la télé américaine, hein, gros gros physique Andrew Luck, capable de claquer des temps aussi intéressants hein, que Cam Newton, justement, lors du Combine. Ça avait été pas mal pour lui. Les Colts, donc, en ont fini pour ce premier tour, ils ont comblé leurs plus gros besoins. Il leur reste quand même pas mal de choses à combler. Peut-être qu'on pourrait les revoir dans le premier tour, s'ils ont envie de monter un échange pour remonter, ou plutôt l'inverse et essayer d'en récupérer d'autres.
Si on voit un bon offensive lineman tomber, je pense que les Indianapolis peut faire un mouvement pour aller le chercher.
On parlait plutôt de l'inverse. Hein, on parlait qu'ils tradent. On parlait qu'ils tradent plutôt leur premier choix du second tour pour avoir plus de choix à la suite. Pour avoir plus de choix à la suite dans les tours suivants. Voilà. Bon, on va passer un petit peu aux besoins des Redskins puisque ce sont eux maintenant qui sont sur l'horloge. On n'a pas le droit au chrono hein, pour l'instant par la télé américaine, mais on voit déjà Robert Griffin à l'écran parce que là non plus, pas beaucoup de suspense. Robert Griffin qui est le vainqueur, le dernier vainqueur du Heisman Trophy.
C'est ça.
Et donc, qui est le favori pour une équipe de Washington où c'est pareil, il y a peut-être un petit peu moins de besoins qu'à... Il y a peut-être un petit peu moins de besoins que du côté d'Indianapolis.
Elle est relativement plus complète, cette équipe. La ligne offensive est meilleure. Il y a un corps de receveur pour lequel les Redskins sont bien dépensés en cette free agency. La défense est solide. Il y a désormais 2 pass rushers avec Ryan Kerrigan et Brian Orakpo. Donc, oui, on peut estimer que Robert Griffin aura moins à faire pour porter son équipe qu'Andrew Luck cette année.
Alors, encore une fois, hein, là, c'est vraiment... Pas de surprise, on est déjà sur des, on est sur les deux premiers picks qui sont garantis, gravés, les maillots sont floqués, ils sont presque déjà prêts à partir à la vente. Demain sur le NFL Shop, les maillots de Luck et Griffin seront probablement déjà disponibles. Et peut-être que vous les commanderez d'ailleurs. Raphaël, un petit peu de nouvelles du chat. On vous met beaucoup à contribution au début parce que c'est vrai que bah, ces deux pics-là, il n'y a qu'à les commenter, il n'y a pas beaucoup à les analyser vu qu'on les connaît déjà depuis un bout de temps.
Bah effectivement, sur le chat, ça se demande, on se demande pourquoi les Redskins attendent pour choisir Griffin alors que tout le monde, enfin pour tout le monde, c'est le choix logique. Donc les gens sont impatients de découvrir les pics d'après.
Eh bah oui, c'est un peu l'intérêt. Hein. La draft, on sait qu'elle va commencer avec le troisième choix. Pour l'instant, la draft commence au troisième choix. Et alors, il y a du monde un peu sur le chat, là. Je crois que vous êtes beaucoup.
Bah écoute, a priori, sur le chat, on est facilement 80. Moi, je dirais, ouais, 80, allez, soyons fous.
Allez. En tout cas, ça fait plaisir hein, que vous soyez aussi nombreux. On vous l'a dit, ça va s'animer dans les minutes à venir. Pour l'instant, on se préserve un peu. C'est un marathon. On est là pour 3 heures. On commence tranquillement. On vous en garde un peu sous le pied. On vous l'a dit, on espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout. Courage. Courage. Bon, on continue donc un peu à parler de ces Redskins. On va passer un peu au-delà du cas Robert Griffin. Lineman offensif, cornerback, inside linebacker au niveau des besoins, notamment la ligne peut-être. Alors Trent Williams a pas mal marché.
Oui, il est sur une pente ascendante depuis son année de rookie. L'intérieur de la ligne est peut-être un peu en dessous, mais on peut travailler là-dessus en milieu de draft ou même sur un free agent après la draft. Au niveau de la ligne, je suis pas particulièrement inquiet. Le système de Shannon fonctionne bien. Et avec la mobilité de Robert Griffin, ça devrait pas être horrible. En tout cas, ça devrait pas arrêter l'attaque de Washington.
Alors, toujours pas de décision. Alors, toujours pas de décision, c'est un bien grand mot. La décision, elle est prise, mais toujours pas d'annonce. Hein. Les Redskins sont toujours on the clock. Mais voilà Roger Goodell qui nous arrive. Petite alerte. Voilà, on vous y habitue. Ça veut dire que Roger Goodell arrive. Et avec le second choix, les Redskins sélectionnent Robert Griffin, le troisième du nom. Quarterback junior de 22 ans qui sort de la fac de Baylor avec un magnifique costume bleu ciel. On va faire la fashion police en même temps. Les fans des Redskins sont contents. Oula, il y a des carreaux aussi. Hein. Il porte une nappe, Robert Griffin, en guise de chemise.
Look à l'anglaise, Doctor Who.
Voilà, alors Robert Griffin sélectionné par les Redskins, c'est officiel, la draft elle commence maintenant. Alors on ne sait pas si c'est sa petite fille ou sa petite sœur qui l'emmène avec lui. 1m88, ah les chaussettes, on n'a pas vu les chaussettes de Robert Griffin, c'est vrai ça? Alors apparemment c'est le roi de la chaussette qui surprend, mais on ne les a pas encore vues, on verra bien. Alors les journalistes américains ont prévenu qu'il avait des chaussettes très originales, on attend de les voir. La taille de Robert Griffin, c'est 1m88, 101 kg, les stats 2011, 291 sur 402, 4293 yards, 37 touchdowns, 6 interceptions, 179 courses, 699 yards et 10 touchdowns. Robert Griffin, l'homme en bleu ciel, est donc en train de remercier tout le monde, de faire les photos avec la famille, avec les amis. Et il va se diriger dans la forêt de caméra pour aller voir le commissionneur. Ah, c'est pas direct, hein. Ils les mettent pas au bord du... Ils les mettent pas au bord de la pièce hein, quand Roger Goodell les appelle. Donc, Robert Griffin, on l'a dit, quarterback avec un peu plus de potentiel en théorie que Andrew Luck.
Il a des meilleurs outils que d'Andrew Luck. La différence, ça se fait au mental.
Alors, il a des meilleurs outils, c'est-à-dire il a un plus gros bras.
Il a un plus gros bras. Il a la volonté de l'utiliser. Des lancers difficiles dans des fenêtres étroites pour avoir des first down critiques. Robert Griffin a montré qu'il avait la volonté de les tenter, alors qu'Andrew Luck va être plus conservateur.
Et on a vu un très gros hug, hein, très appuyé de Robert Griffin et Roger Goodell. C'était le check et le gros câlin. Hein. Tout sourire voilà, avec sa casquette des Redskins, on l'a compris, la casquette des Redskins que vous n'appréciez pas beaucoup. En tout cas, toutes les casquettes que vous n'appréciez pas beaucoup. Les nouvelles casquettes New Era, je ne sais pas si on a le droit de dire les marques, allez. Robert Griffin, donc, qui est le choix des Redskins. Et là, cette draft commence, ce sont les Browns qui sont
the clock.
On the clock, on va dire à l'horloge, qui sont sur l'horloge. Allez, on va franciser. Méthode Jacques Toubon. Donc, on va franciser ça. Les Cleveland Browns sont sur l'horloge. Cette draft commence vraiment maintenant. Le choix peut. Alors, s'ils veulent surprendre tout le monde, ils prennent qui? Ils prennent Ryan Tannehill.
Alors, ça... c'est assez étonnant d'avoir sacrifié quand même.
Trois choix,
alors que c'est quand même une équipe qui est toujours en reconstruction et qui a besoin de prendre le plus de joueurs possible pour prendre autre chose qu'un quarterback, en plus un running back qui est une position qui a moins de valeur, on l'a vu ces temps-ci. C'est un peu douteux.
C'est vrai que c'est assez étonnant cette flambée cette flambée de la cote de Trent Richardson ces derniers temps. Alors que oui, comme tu dis, ce poste de running back est en train de se dévaluer dans la ligue, on utilise de plus en plus de comités, et pourtant là ça a l'air de flamber d'un coup, et moi je suis assez étonné aussi de ce trade pour le récupérer en troisième position, si c'est lui. Après ils peuvent donc choquer tout le monde en prenant alors peut-être Claiborne, peut-être ce serait étonnant de monter aussi, surtout qu'ils ont déjà Joe Hayden au poste de corner.
Comme ça, moi je vois vraiment Tannehill, c'est mon pronostic de dernière minute.
Alors là, le pronostic de dernière minute, alors on vous rappellera, on n'en a pas parlé pour les deux premiers picks, on a aussi nos mock drafts du podcast qui sont toujours à côté de nous, on a promis, on va les comparer, et donc elles sont à côté et c'est Raphaël qui est chargé de les noter. Donc là, on a 2 points pour l'instant chacun, vu que les premiers étaient faciles.
100% de réussite.
Voilà, c'est là que ça va se compliquer.
Et à noter que sur le chat, il y en a quelques-uns qui commencent à penser, comme Guillaume, que les Browns sont peut-être montés pour aller chercher Tannehill.
C'est l'instant pronostic. Mettez-nous en vrac tout de suite, là, ce que vous pensez, votre pronostic. Et Raphaël, relaye vos pronostics. Allez-y, feu à volonté sur les pronostics du troisième choix des Browns. Dites-nous ce que vous pensez. Et dès que t'en as quelques-uns...
Richardson, quand même, sort pas mal. Et...
Donne-nous des pseudos un peu quand même, qui nous parle.
Donc pour Richardson, on a Untambed, on a Don Fullback, Ibu. Par contre, on avait Wildy qui soutient, comme Guillaume, Tannehill. Et je pense que là, on a plus des blagueurs qui disent Vontaze Burfict. Mais bon,
ah oui, Vontaze Burfict, il va avoir du mal. Hein. C'est vrai que...
On va le voir ce soir.
Peut-être même pas ce week-end.
Ouais.
C'est parce que Vontaze Burfict, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il a eu des petits problèmes comportementaux, visiblement. Il n'a pas vraiment plu lors des interviews. Il a aussi été, je crois, contrôlé positif à la marijuana. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses. Mm-mm. Et il n'a pas été très recommandé. Alors, Robert Griffin, qui est actuellement... interviewé, et on lui demande ce qu'il pense du fait que les Redskins aient lâché beaucoup pour l'obtenir, et il dit qu'il est venu là pour bosser et il veut montrer qu'il est à fond pour les Redskins et il est heureux de rejoindre cette équipe.
C'est vraiment les chaussettes.
Alors il y a écrit quelque chose dessus mais on nous les filme à l'envers.
Elles
sont aux couleurs des Redskins. Et il y avait marqué quelque chose, il y avait marqué catch quelque chose, mais on n'a pas vu. Ah, catch that dream. Attrape ce rêve, je suppose. Voilà, bon, Robert Griffin, donc il est content, il a des belles chaussettes. La chemise, c'est un peu moins ça, mais il a des belles chaussettes. Et il est sélectionné. C'est dommage, on n'a pas l'horloge hein, cette année. Ils ne sont pas copains avec l'horloge. On n'a pas l'horloge des choix. Ah si, ils sont on the clock, il reste 9 minutes 30 pour choisir. Donc l'horloge apparemment démarre très après l'annonce du choix de Roger Goodell, puisque normalement c'est 10 minutes, donc elle est démarrée depuis à peine 30 secondes. Et c'est parti pour les Browns, ils travaillent. Et donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges pour l'instant, puisque le deuxième choix qu'on vient de voir des Redskins était à la base aux Rams. Mmh. Le troisième choix qu'on va voir des Browns était à la base aux Vikings. Donc c'est ce qu'on dit, hein, ce plafonnement des salaires des rookies nous a donné quelque chose d'assez génial pour nous les fans, parce que ça va donner des trades en pagaille comme ça, on espère tous les ans.
Ça rend les mock drafts totalement obsolètes, totalement inutiles.
C'est vrai que pour les mock drafts, ça complique les choses quand même maintenant. Vous n'avez plus vraiment de... Bon, mais pour les fans, ça donne... Et c'est aussi pour ça, je pense que vous êtes très nombreux à nous écouter, vous êtes très nombreux sur le chat ce soir et très nombreux à regarder les streamings, etc. Parce que forcément, il y a du suspense et ça donne envie d'être regardé. Donc les Browns sont on the clock, leurs besoins... Donc on a parlé des choix supposés. Raphaël, on est toujours sur Tannehill, Richardson, grosso modo.
Ouais, c'est les deux noms qui ressortent le plus sérieusement.
Alors, les besoins, on n'en a pas encore trop parlé. On pourrait dire qu'ils ont besoin d'un quarterback, quand même.
Ils ont besoin d'un quarterback, essentiellement l'attaque.
Alors, et voilà le signal. Roger Goodell est là. Avec le troisième choix, les Browns choisissent Trent Richardson, le coureur d'Alabama, est donc choisi en troisième position. Et voilà, lui a opté pour le beige et la cravate à motif lait. Et donc, il arrive. Excusez-nous, on doit commenter ce qu'on voit. Et il n'y a pas d'autre moyen de commenter ce qu'on voit que de dire que bon. Donc, on ne va pas appuyer là-dessus à chaque fois. Trent Richardson est donc sélectionné. C'est un coureur. Il est junior. Il sort de la fac d'Alabama. Ses stats en 2011, 293 courses, 1679 yards, 5,9 yards par course, 21 touchdowns. Et donc, un top 3 pour un coureur en 2012. Est-ce que c'est bien joué?
Je pense que c'est plus arrivé depuis Cédric Benson en top 3. Ou... C'est quand même...
Pour rappel, hein, le dernier sélectionné haut, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'était Adrian Peterson en 7.
En 7. Bon. Darren McFadden en 4.
Ou 5. Que les fans des Raiders nous aiguillent peut-être. Je crois que c'était 4 ou 5, McFadden. Oui, c'est vrai que c'était le dernier haut. Bon, on a les deux exemples. Hein. McFadden, très souvent blessé, mais productif quand il est là. Peterson, tout le temps productif.
Ouais.
Sauf les rares fois où il est blessé. Mais ça reste un risque.
Ça reste un risque, mais il y a... On va dire que Richardson est quand même plus solide, moins frêle qu'un McFadden, donc il sera plus solide et on a plus confiance en lui. Maintenant, c'est plus la décision de vendre des picks, d'échanger des picks pour l'obtenir. S'il serait tombé jusqu'à Cleveland, ça aurait été une décision normale. Là, il y a vraiment un investissement pour un running back, c'est quand même pas un bon investissement, j'ai pas l'impression.
Alors moi, je vais voir le côté positif, je vais me faire l'avocat des Browns. Bon, c'est quand même un joueur qui a l'air de pouvoir faire passer l'attaque un cran au-dessus. Il faut dire qu'elle en avait besoin. Et alors, ils ont toujours leur 22e choix, donc ils peuvent toujours récupérer peut-être un bon receveur ou peut-être un Brandon Whedon au poste de quarterback. Il faut voir comment ils vont jouer à ce niveau-là. Mais ils peuvent peut-être faire passer une nouvelle vitesse à leur attaque dès ce soir s'ils jouent bien le 22e choix. On verra comment ça se passe.
En tout cas, un coureur comme ça, ça amène un tempo dans l'attaque et ça permet de réguler et de travailler l'horloge et de contrôler l'horloge.
Oui, donc voilà, ça va quand même apporter des choses. C'est vrai qu'il faut voir après, en espérant qu'il reste en bonne santé et que tout se passe bien pour lui. Alors là, Richardson est sur le podium. Voilà, il est monté rencontrer Roger Goodell. Petite poignée de main et le micro. Alors c'est marrant, il a laissé le stickers sur ses lunettes. Trent Richardson, il a toujours le stickers Paul Smith sur le carreau des lunettes. Donc apparemment, c'est les lunettes qu'il a pris dans le rayon directement. Et il remercie Roger Goodell, il fait les petites photos, donc on en parlait, oui, il va pouvoir faire passer une dimension supplémentaire à cette attaque. Bon voilà, moi j'ai lu des comparaisons avec Marshall Faulk au sens qu'il est complet, il est plus massif, mais il est complet, il peut bloquer, il peut recevoir, il peut courir, donc pourquoi pas après tout.
C'est un Adrian Peterson qui peut recevoir le ballon à la passe.
Ce qui est quand même un sacré compliment.
C'est quand même un beau compliment. C'est quand même très bien. On va voir ce qu'ils font, mais je pense que c'est une équipe qui est encore trop incomplète pour permettre de lâcher des pics. Maintenant, je pense qu'ils sont montés d'un cran parce que justement, ils avaient Richardson bien supérieur aux autres prospects disponibles sur leur board et qu'ils sentaient qu'ils perdaient trop de valeur en restant à leur spot si quelqu'un prenait Richardson à ce point.
Des réactions un petit peu sur le chat, Raphaël.
Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup de gens sur le chat pensent que c'est une bonne nouvelle pour l'attaque de Cleveland d'apporter Richardson. Par contre, en revanche, certains comme Taro par exemple pensent que c'est, comme il le dit, c'est du suicide de drafter un running back dans le top 10 à notre époque. Donc lui, il n'est pas du tout convaincu par ce choix. Et beaucoup pensent que Richardson à l'intérieur pleure de rejoindre les Browns parce que ça le fait pas, quoi.
Bon, c'est malheureusement, bon, de toute façon, c'est toujours un peu comme ça aussi hein, pour les choix hauts. Ils ont beaucoup de talent, mais ils se retrouvent souvent dans des situations difficiles. Hein. C'est donc au tour des Vikings de se retrouver sur l'horloge. On a Matt Khalil à l'écran. Est-ce que Matt Khalil est ce choix et qu'ils ont fait justement une bonne affaire parce qu'ils vont avoir leur gars tout en ayant gagné des choix en refilant le troisième?
Il y a eu beaucoup de rumeurs un peu partout sur le fait que les Vikings voulaient prendre quelqu'un d'autre que Matt Khalil parce que Matt Khalil est pas dans le, n'a pas la morphologie d'un lineman classique de Minnesota, qui est beaucoup plus massif, qui est beaucoup plus physique et qui essaie de faire courir.
Désolé, on te coupe, Guillaume, mais on a eu l'alerte trade qui vient de passer. Apparemment, les Jaguars sont montés à la 5e place pour récupérer le choix des Buccaneers. C'est sur Twitter qu'on apprend ça, du compte officiel des Jaguars. Nos amis de la télé américaine ne l'ont pas encore relayé. Ça y est, ils l'ont relayé, voilà. Donc les Jaguars vont monter à la 5e position. Alors on a encore les Vikings qui vont arriver avant en 4e place. Mais le pick suivant, ce sera les Jaguars. On va y revenir juste après. Qui vont-ils choisir? On ne sait pas encore. On va se concentrer d'abord sur les Vikings. Qui, aujourd'hui... Non, pas encore. Camille a eu la gâchette. Il a cru voir Roger Goodell. Il a dégainé le jingle. Donc, les Vikings sont sur l'horloge. Matt Khalil est une possibilité. Pourquoi pas Justin Blackmon?
Ce serait... un besoin.
Là, je sens que tu serais énervé.
C'est un besoin clair. Après, c'est une histoire de valeur de position. Un running back vaut moins qu'un quarterback. Un receveur vaut un peu moins que quelqu'un qui va protéger votre investissement en Christian Ponder.
Alors, Matt Khalil, attendu comme le meilleur lineman de cette draft. Les Vikings, on ne sait pas s'ils ont envie de trader vers le bas encore une fois ou pas. Il leur reste 7 minutes 58 sur l'horloge actuellement. Envoyez tiens, vos pronostics aussi sur le chat à Raphaël qui nous les donnera. Donc, Matt Khalil, moi je vois bien Matt Khalil aussi. Je pense que le fait de dire qu'ils n'étaient pas intéressés par lui ces derniers jours, c'était vraiment un écran de fumée pour essayer de se débarrasser du troisième pick. Et là, on a vraiment Roger Goodell qui arrive. Donc, ils se sont décidés très vite. Et à mon avis... S'ils se sont décidés vite. Avec le quatrième choix, les Vikings sélectionnent Matt Khalil, offensive tackle de USC. Voilà, c'est fait, on les attendait. Et donc, ils ont très bien joué leur coup, puisqu'ils se sont débarrassés du troisième pour descendre d'un seul rang. Ils récupèrent leur bonhomme, ils gagnent 3 picks. Matt Khalil, offensive tackle, 22 ans USC, on l'a dit, 1m98, 139 kg, une belle bête. Il protégeait, donc il était à USC l'année dernière, et donc Christian Ponder a son ange gardien.
Voilà, c'est vraiment l'année dernière, Minnesota a fait un investissement en Christian Ponder, le manque de protection a un peu pourri sa saison, là il protège leur investissement.
Alors Matt Khalil est en train de remercier tout le monde, on voit un petit peu son entourage, il est entouré de jolies jeunes filles, hein, Matt Khalil, il s'embête pas. Donc Matt Khalil, oui, là c'est le choix solide par excellence, on s'excuse pour les quintes de tout, hein. On est vraiment désolé, mais c'est pas la bonne période, le temps est frisqué et humide. Donc on vous disait que Matt Khalil est l'investissement solide, voilà, bon c'est pas flashy, mais ça va porter des résultats.
Non, oui, il y avait un débat qui disait que ben, justement, les left tackles étaient moins valorisés, que les équipes qui gagnaient des titres avaient des left tackles qui étaient moyens, on va dire. Mais là, c'est vraiment pour aider un jeune quarterback qui a besoin de confiance, qui a besoin de voir se développer le jeu. Et ben, c'est un investissement sur le futur des Vikings.
Alors Matt Khalil qui prend Roger Goodell dans ses bras et qui pourrait probablement le tuer s'il serrait un peu plus fort, vu la différence de gabarit, voilà, on voit les maillots. Alors c'est l'occasion de voir aussi les maillots de la marque à la virgule un peu plus en détail en vrai, les petits changements parce qu'ils sont mineurs au niveau du col, etc. On voit donc Matt Khalil, un grand garçon voilà, qui a protégé Matt Barkley à USC pendant toute la saison. Matt Barkley, on en reparlera l'année prochaine parce que lui, il sera sûrement au premier tour aussi. Donc Matt Khalil ouais, qui va protéger cette équipe, qui va protéger Christian Ponder. Plutôt pas mal cette attaque d'ailleurs, si Khalil protège bien Ponder, parce que Percy Harvin est un receveur correct, même s'il lui faudrait de l'aide.
Ouais, il est un peu seul.
Peterson est un bon coureur, c'est le cas le minimum de le dire. Donc ça peut donner une attaque à peu près complète.
C'est la base d'une attaque. Maintenant,
ça
va être difficile de rivaliser avec les autres attaques de la division. Mais au moins, triste, ça permettra de contrôler un petit peu...
Ce qui pourrait être triste, peut-être, c'est que Khalil et Ponder vont peut-être atteindre leur pic. Le temps qu'ils progressent, Peterson lui déclinera.
C'est possible. C'est un petit peu le problème des running backs qui déclinent un peu vite.
Parce que on a pas l'âge hein, de Peterson sous les yeux, mais il a 27, bon voilà, il a encore 3 bonnes années.
Oui.
Et après, ça va commencer à être dur. Khalil Ponder est arrivé l'an dernier, Khalil arrive cette année. Ça va être un peu limite. Bon, à mon avis, les Vikings, donc on les
revient. Ça peut montrer une transition d'un jeu de course vers un jeu de passe en attendant que Peterson termine, on va dire, sa carrière. C'est un peu difficile de dire ça, un peu méchant, mais.
Alors, on a ce que reçoivent, voilà, les Buccaneers reçoivent le 7e choix général et un choix du 4e tour pour laisser leur 5e place aux Jaguars. Donc, les Buccaneers ne descendent que de 2 places.
C'est très peu cher pour les Jaguars. Je suis content de voir qu'on n'a pas vendu la maison pour monter.
Alors, au final, oui, ils ont payé moins cher hein, que les Browns. Donc, juste un choix du quatrième tour pour échanger. Alors, l'horloge, elle a bien démarré. Plus que 3 minutes 30 pour les... Alors, attention. Dallas... Et ben voilà, Dallas et Saint-Louis, un échange encore. Donc ça veut dire que Dallas remonte à la 6e place après un échange. Voilà, l'alarme des trades, merci Camille. L'alarme des trades donc, qui retentit, ce sera encore pour après. Dallas est monté à la 6e place, donc ils seront juste derrière. On commence à s'y perdre dans cette...
C'est inhabituel que les trades soient faits un pic avant justement le pic échangé, qu'on les connaisse.
C'est vrai qu'on les a juste avant à chaque fois. Ouais.
Les années précédentes, c'était au moment de la sélection. C'est plus pratique et c'est un peu plus surprenant à anticiper, donc...
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, à la 5e position, nous avons donc les Jaguars. On récapitule, hein. Les Jaguars sont en train de sélectionner, il leur reste 3 minutes. Derrière, ce sera les Cowboys qui viennent de monter après un échange avec les Rams. Que peuvent faire les Jaguars avec ce 5e choix?
Alors, ils peuvent sélectionner Maurice Claiborne, le cornerback.
Et bien, on va le savoir tout de suite.
Ou Justin Blackmon, le receveur que j'aime un peu moins, que je pense pas qu'il fait partie des joueurs élites de cette draft.
Alors, on va le savoir, Roger Goodell est monté sur le podium, il annonce l'échange avec le 5e choix de la draft. Les Jaguars sélectionnent Justin Blackmon, le receveur d'Oklahoma State, le receveur que tu ne portais pas beaucoup dans ton cœur.
Disons que quand on regarde les receveurs qui ont été draftés récemment, les Julio Jones, les AJ Green ou il y a un peu plus longtemps Calvin Johnson, il n'est pas au niveau que ce soit physique ou athlétique de ces gars-là. Donc j'avais du mal à avoir quelqu'un dépenser un pic du top 10 sur ce joueur.
On le rappelle, hein, Justin Blackmon, 22 ans, un junior d'Oklahoma State, 1m85 pour 94 kg, les stats 2011, 121 réceptions, 1522 yards, 18 touchdowns, il était à la fac avec Brandon Whedon, un quarterback qu'on va peut-être retrouver un petit peu plus tard dans la soirée, ou dans la nuit en l'occurrence. Donc Justin Blackmon, toi ton petit problème c'était la vitesse.
Ouais, c'est clairement pas une menace en profondeur, même si on le voit là... attaquer en profondeur, mais c'est en NFL il va pas menacer en profondeur, c'est quelqu'un qui va prendre énormément de ballons sur des passes courtes mais qui va pas menacer en profondeur, donc c'est pas quelqu'un pour lequel on va modifier sa défense et qu'on va ouvrir des possibilités pour les autres joueurs. Maintenant, au niveau du recrutement des receveurs des Jaguars, on a recruté Laurent Robinson, Evans, qui sont plus des receveurs rapides et un corps de receveur, vous devez avoir des skill sets, des compétences qui sont différentes, qui doivent se compléter. Et c'est vrai que Justin Blackmon, c'est un receveur de possession qui complète bien le corps de receveur actuel des Jaguars.
Bon, en tout cas, on voit que les équipes ce soir, elles ont besoin de quelque chose, elles font le trade pour aller le chercher. Visiblement, c'est la mode du soir, on est décidé.
C'est vrai que pour ce prix-là, ça vaut le coup de passer devant les Rams au cas où les Rams prenaient Justin Blackmon.
S'ils le voulaient, en effet, c'est une bonne affaire. Comment ça réagit à ces trades, à toute cette action, Raphaël?
Ah bah, les gens sont très enthousiasmés par une draft aussi vivante. Au niveau de Blackmon, beaucoup trouvent que être monté pour Blackmon alors que la draft est riche en receveurs, c'est peut-être un peu dommage, mais en même temps, les Jaguars n'ont pas beaucoup payé, n'ont pas beaucoup donné pour Blackmon, donc les avis sont plutôt partagés. Sinon, on vient d'apprendre via le web que les Cowboys auraient donné un pic du deuxième tour pour échanger avec les Rams.
Alors là, par contre, c'est un peu plus de valeur.
Ils remontent de plus bas en même temps.
C'est vrai que les Cowboys étaient plus bas, ils étaient 14e, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Et d'après les rumeurs un peu sur la toile, etc., ça serait pour Maurice Claiborne.
Ce serait pour Maurice Claiborne, le cornerback. Ce serait
une très belle acquisition.
Ce serait pas mal, puisqu'ils ont déjà signé Brandon Carr cet été. Ce printemps.
Voilà.
Et alors là, il blinderait la ligne arrière de la défense.
C'était une grosse faiblesse cette année. Quand on joue contre Mike Vick, Robert Griffin, Eli Manning, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de cornerback.
Donc c'est ce qu'on disait. Si ce choix de Maurice Claiborne se confirme, ça confirme aussi ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que les équipes, elles ont besoin ce soir. Elles y vont. Alors on a la confirmation. Le 14e choix général et un choix du second tour, le 45e général, va aux Rams. Et les Cowboys montent en 6e place. Donc ce trade est confirmé, ça continue, hein. Cette soirée folle, ça doit être au moins le troisième trade qu'on a, puisque donc les Jaguars sont montés, les Cowboys sont montés, les Browns sont montés, c'était une heure avant.
Et si on compte les Redskins,
donc ça fait déjà 4 trades sur les 6 premiers choix de la draft, donc ça va très très vite. On a un gros plan à la télé sur Maurice Claiborne, premier All-American dans la première équipe All-American l'année dernière. Grand cornerback, très physique. On va en reparler un peu plus en détail si c'est lui qui est confirmé à la sélection. Les Cowboys, donc au niveau des besoins, qu'est-ce que ça disait à Dallas?
La ligne défensive. Les trois big men de la défense 3-4 ont besoin de pousser un peu plus la poche, d'apporter un peu plus pour libérer des Marcus Ware. C'est pour ça que je voyais facilement Quinton Couples chez les Cowboys.
L'intérieur de la ligne offensive, peut-être un peu aussi.
C'est possible, mais à ce point-là de la draft, même David de Castro, c'est un peu haut.
Alors, alors c'est vrai que ce serait bizarre d'être montré pour de Castro. On sait qu'ils étaient très intéressés par Mark Barron aussi, le safety d'Alabama. Ce serait étonnant aussi de monter à la 6e place.
Oui, la montée de Mark Barron dans le stock, c'est vraiment étonnant. C'est pas Sean Taylor, c'est pas le safety de Tennessee qui a été drafté par Kansas City.
Et le jingle, Eric Berry. Le jingle de l'arrivée. Pardon, tu as dit ?
C'est pas Eric Berry non plus.
J'avais compris Ribéry, j'ai eu peur. Dallas, donc la sélection va être annoncée. Roger Goodell annonce la sélection, les Cowboys choisissent Maurice Claiborne, le cornerback de LSU. La sélection est confirmée pour Maurice Claiborne qui se lève avec le costume le plus sobre de la soirée. Pour l'instant, il remercie la famille et tout le monde. Les Dallas Cowboys récupèrent donc Maurice Claiborne, belle affaire. Pour l'équipe, alors on va d'abord rappeler un peu le profil du joueur. Un cornerback qui sort de LSU, 51 plaquages, 6 interceptions, un touchdown l'année dernière, 22 retours pour 552 yards et un touchdown aussi. Il a aussi cette dimension là dans son jeu. Grand corner, je suis désolé, j'ai pas la taille et le poids, mais grand corner très physique.
Alors c'est un corner qui est vraiment excellent en couverture individuelle. Il colle son receveur, vraiment, il efface un receveur du jeu. Rob Ryan a un corner excellent, Rex Ryan, pardon, a un corner excellent à New York. Il y a son frère qui a voulu le même.
Tu le comparerais à Darrell Revis ?
Il est facilement aussi physique et aussi bon en individuel que Darrell Revis.
Alors là, oui, en effet, on parle de très très lourd si on parle de Darrell Revis. Maurice Claiborne, moi j'avoue que je suis assez charmé par par le coup réussi par Dallas aussi, parce que bon, ils payent de leur choix du second tour. Bon, on sait que les choix du second tour sont assez valorisés maintenant pour le rapport qualité-prix. Mais voilà, ils ont une star en puissance qu'ils peuvent associer à Carr.
On vient de voir se faire sélectionner les 6 prospects élites de cette draft. C'est à partir du prochain pick que la draft devient intéressante, parce qu'il y a quand même un espace entre ces 6 prospects-là et le reste de la draft en termes de niveau.
Oui, alors on en a pas mal parlé ça dans la presse. C'est vrai qu'on a souvent entendu parler de cette chute de niveau entre les 6 premiers et la suite. Ça pourrait du coup être encore plus fou au niveau des trades, et c'est là qu'on se demande comment ça peut être plus fou, puisqu'il y a des trades à tous les étages pour l'instant, mais ça peut encore être pire. Maurice Claiborne est donc avec Roger Goodell, le petit sourire pour la photo, le maillot des Cowboys, il va emménager à Dallas. Il va donc, voilà, Roger Goodell lui remet la casquette et tout ça, il prend soin de ses joueurs, Roger Goodell. On sait qu'il est très attaché à la sécurité, une casquette bien placée, il faut qu'il n'y ait pas d'irritation, etc.
Pas de commotion cérébrale.
Voilà, quand même ménager ses joueurs. Donc, Maurice Claiborne sera un Cowboys. On s'y perd avec tous ces trades. Maintenant, c'est à Tampa de choisir à la 7e place. Les Tampa Bay Buccaneers qui sont donc descendus. À la base, ils avaient le 5e choix. Ils sont descendus après un trade avec les Jaguars. Et donc, les Buccaneers, alors, qui ils peuvent prendre maintenant? Parce qu'à la base, la mock draft du site nous donnait Maurice Claiborne. Qui n'était pas un choix illogique vu qu'Aqib Talib a des problèmes avec la justice, que Rondé Barber est près de la retraite quasiment, il pourrait même passer au poste de safety pour s'économiser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre?
Alors, Greg Schiano, le nouveau coach de Tampa Bay, a une philosophie un peu conservatrice, donc bonne défense, faire courir le ballon. Donc on pourrait voir quelqu'un dans cette optique-là comme Riley Reiff, le lineman d'Iowa. Une autre option que je vois, c'est Stephen Gilmore, le cornerback de South Carolina, qui a monté un petit peu les draft boards ces derniers jours.
C'est une des sensations récentes, Stephen Gilmore.
Au niveau pass rusher, ils ont fait ligne défensive, ils ont fait des investissements ces dernières années, donc ça semble prêt. Luke Kuechly peut être une... Une sélection surprise à 6, et on peut comprendre le trade down dans ce cas pour pas avoir à le sélectionner trop tôt. J'ai lu quelque part que Tampa Bay l'aimait beaucoup.
Alors, vos avis un petit peu là sur les Buccaneers, qui vous voyez là-bas?
Alors, c'est très partagé. On a quelques personnes qui, par rapport à des tweets ou d'autres messages, parlent de Barron qui montrait jusque là.
Barron très demandé, pourquoi pas?
C'est un besoin.
D'autres, comme par exemple CB Mousse, parle plus de Quickly. Et où on a encore aussi Black Cats ou D-Log qui eux pensent plutôt au cornerback Gilmore.
Alors Gilmore, Quickly, Barron, on voit que c'est très ouvert pour les Buccaneers. Au niveau des besoins, donc on l'a dit, corner ça peut l'être, linebacker ça peut l'être parce qu'il y a un manque pour aider Mason Foster.
Safety ça peut l'être également.
Defensive line, pass rush, pourquoi pas, ils étaient derniers au nombre de sacs l'an dernier.
Après ça peut être un problème de couverture aussi, le dernier au nombre de sacs.
C'est vrai, mais un petit peu de pass rush quand même.
Ce serait possible. Ils peuvent considérer Quinton Couples comme le meilleur joueur disponible et drafter pour le meilleur joueur disponible.
Et puis on sait qu'ils n'ont pas trop peur des gens qui ont des caractères un peu difficiles.
Ils ont quand même attendu le deuxième tour pour drafter le defensive end de Clemson l'année dernière qui avait des problèmes de comportement.
Daquan Bowers.
Voilà.
Daquan Bowers. Et puis right tackle peut-être aussi un petit peu solidifié le côté de la ligne.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pensé à Riley Reiff.
Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Ça commence à devenir très, très intéressant et ça commence aussi à prendre un peu plus de temps. C'est pour ça. On utilise un peu plus l'horloge. Alors l'horloge, elle disparaît, elle réapparaît. On ne sait pas combien de temps il reste. Si, 8 minutes 15, voilà. 8 minutes 15, alors il a des marques quand il veut aussi, visiblement, parce que ça fait 5 minutes que le joueur précédent est monté sur le podium. Donc, on fait un petit point pour l'instant sur les sélections. On a Luck qui est parti en 1 à Indianapolis, Robert Griffin en 2 à Washington. Le troisième choix, c'était Trent Richardson avec les Browns. Le quatrième choix, c'était aidez-moi, je ne sais plus. C'était donc les Vikings avec Matt Khalil. Le cinquième choix, ce sont
les Jaguars
avec Justin Blackmon. Le 6, c'était les Cowboys qui sont montés. Pour Maurice Claiborne. Voilà. Bon, il va falloir que je note ça quelque part parce que je ne pourrais pas vous faire les résumés de tête à chaque fois. Ce sera un peu plus difficile. Voilà. On va donc attendre. On voit Marc Barron à l'écran. un indice, peut-être. Ce sera peut-être un indice, on ne sait pas. Voilà, bon, pour l'instant, alors voilà, les Cowboys sont montés pour Claiborne. Je suis en train de vous chercher un récapitulatif, voilà, pour être honnête. C'est pour ça que je suis un peu lent à parler en même temps, parce que j'essaie d'avoir une page avec les boards en direct. On a parlé donc des besoins des Buccaneers. Ils ont encore 6 minutes 58 pour arriver à choisir leurs joueurs. Est-ce qu'ils pourraient encore essayer de trader pour descendre?
Ça reste possible. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à trader down. Les Buccaneers peuvent se servir de beaucoup de picks. Mais apparemment, là, ils font leur sélection.
Allez, on va le savoir. Roger Goodell est présent. Avec le 7e choix de la draft 2012, les Buccaneers choisissent Mark Barron, le safety d'Alabama. On en avait parlé. Sa cote a grimpé en flèche ces derniers temps. On en parlait, je ne vais pas dire à peine, mais on en parlait peu il y a quelques semaines. Et Mark Barron, il a grimpé en flèche. Petite présentation, Mark Barron, c'est un safety de 22 ans, senior à Alabama, 1m88, 98 kg. 13 matchs, 66 plaquages, 5 plaquages pour perte, un sac, 2 interceptions. Est-ce que c'était le meilleur joueur à prendre maintenant?
Il se peut que ce soit le meilleur joueur disponible. Parce que Mark Barron sait tout faire. Il était capitaine, en tout cas, le général. C'était lui qui dirigeait la très compliquée défense d'Alabama. À part se retrouver, on va dire, tout seul en couverture longue, il sait tout faire. Il sait couvrir un tight end. C'est très important aujourd'hui. Il sait jouer le running game. Il sait jouer la zone, il lit les défenses, donc c'est possible que ce soit le meilleur joueur disponible. Maintenant, est-ce qu'il est au niveau d'un Eric Berry, d'un Sean Taylor qui ont été draftés dans le top 10 précédemment? J'en suis pas convaincu. Peut-être que justement le fait que les contrats sont moins chers pousse des équipes à utiliser ces picks, ces early picks sur des joueurs qui sont peut-être qui jouent un poste qui est moins une priorité.
Alors moi, ce qui m'interpelle un petit peu avec ça, c'est que tu dis que ça a l'air d'être le meilleur joueur sur le board, alors qu'il a 2 énormes bracelets en or. Il y a une montre et un bracelet. Alors il a déjà dépensé son signing bonus de rookie. Donc ce qui m'étonne moi dans ce genre de choses, c'est que tu dis que c'est le meilleur joueur, mais alors pourquoi on n'en a pas parlé avant la semaine dernière, plus qui pourrait être justement sixième ou...
Alors, il y a les médias qui font leur board par rapport à leur étude du film, et il y a les équipes qui le font aussi et qui essayent de le cacher le plus possible. Maintenant, il y a les journalistes d'investigation, on va dire, c'est un petit peu bizarre de dire investigation pour un sport, qui, en dernière minute, obtiennent les informations, etc. Et c'est à partir de ces informations que, justement, ces dernières semaines, on s'est rendu compte que les équipes aimaient beaucoup Mark Barron, et du coup, c'est cette sélection qui est faite.
D'accord, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, pour l'observateur non averti ou non connaisseur de la draft, c'est vrai que ce joueur-là, on n'en parlait pas jusqu'à il y a une semaine. Et puis là, depuis une semaine, on a vu, hein, si vous avez suivi les actus sur le site, hier, on avait les Chargers qui voulaient monter pour le choisir. Ensuite, on avait, je me demande si c'était pas les Buccaneers d'ailleurs qui voulaient monter pour le choisir, etc. Enfin, ça s'est déchaîné d'un coup. Il y a des joueurs comme ça, alors qu'au final, bon, il y a eu les Pro Day, mais leur saison, elle est terminée depuis des mois. Et puis leur stock, donc ce qu'on appelle le stock, c'est leur cote, hein, se met à monter et à descendre comme ça une semaine ou deux avant la draft.
La cote, elle monte ou elle descend essentiellement dans les médias, comme je t'expliquais.
Ah, c'est ça, c'est artificiel en fait un peu.
En janvier, peut-être que les Buccaneers ont fait leurs évaluations et ont dit Mark Barron est un top 7 ou top 10 pick et ont réussi à le cacher suffisamment. Et derrière, les commentateurs vont dire oh, c'est un reach, c'est cher payé, c'est trop tôt, etc. Mais l'évaluation est juste différente, celle des médias et celle des équipes.
Et alors que maintenant, ce sont les Dolphins qui sont sur l'horloge et que apparemment le pic ne va pas tarder, l'horloge a été remise à zéro. Donc ça veut dire que les Dolphins vont choisir. Et alors là, on a vu la caméra se tourner vers un certain Ryan Tannehill. Voilà, alors pareil, Tannehill fait partie de ces joueurs dont la cote, à un moment on disait tout le monde va se précipiter pour le prendre en troisième. Et puis c'est revenu un peu au sol, enfin c'est retombé un peu. Et puis maintenant, voilà, il est en huitième. Les Dolphins ont besoin d'un quarterback. Leur propriétaire apparemment avait très envie de Ryan Tannehill parce qu'il a envie de vendre des places, donc il aimerait bien motiver un peu les troupes. Est-ce que là c'est inévitable, on voit Tannehill dans deux secondes qui va être annoncé ou pas?
Non, je pense pas que c'est 100% ou même 90%. Il y a une chance sur deux. Ça dépend de Stephen Ross qui a encore dit qu'il n'écoutait pas ses coachs quand il voulait choisir un quarterback. Il faut savoir que le coach offensif de Miami, c'est l'ancien coach de Tannehill à Texas A&M. Et le coach, le GM, c'est pas Stephen Ross de Miami. J'ai dit une bêtise, c'est...
Jeff Ireland,
et il a montré plusieurs fois que justement il était prêt à attendre pour un quarterback, par exemple Sean Beck à l'époque ou d'autres joueurs.
Et Roger Goodell est là. Avec le 8ème choix de la draft 2012, les Dolphins choisissent Ryan Tannehill, quarterback. Les Dolphins ont leur quarterback et Ryan Tannehill a une poupée Barbie. On vous décrit ce qu'on voit. Ryan Tannehill, 23 ans, un senior de Texas A&M. Voilà, les Dolphins n'ont même pas eu à monter un échange pour aller le chercher, comme on aurait pu le croire il y a quelques semaines, justement, quand sa cote montait en flèche. Et ils ont Ryan Tannehill, un quarterback d'1m93 pour 101 kilos. Ses stats en 2011, 61,6% de passes complétées, 29 touchdowns et 15 interceptions. Les fans des Dolphins ont leur quarterback, en sont-ils contents? On va se tourner d'abord vers Raphaël.
Bah écoute, il n'y a pas beaucoup de fans des Dolphins sur le chat. Maintenant, les avis sont assez partagés quand même. Certains pensent voir un quarterback style Christian Ponder des Vikings l'année prochaine, donc pas le type le plus emballant du monde. Après, d'autres lui laisseraient sa chance, donc c'est très partagé. Hein. Y a pas, mais il n'y a pas non plus de gens totalement enthousiaste sur ce pic.
Bon, personne n'est enthousiaste pour Ryan Tannehill, alors qu'on voit qu'il a déjà le maillot imprimé, donc ils doivent les connaître un bout de temps avant les pics, ou ils ont la machine à imprimer.
Super rapide.
Ils ont un floqueur juste derrière la tribune.
D'ailleurs, ouais, c'est ce que certains reprochent un peu sur le chat, c'est que la télé nous montre avant l'image du joueur qui va être plus ou moins sélectionné avant que Goodell l'annonce.
C'est vrai que
gâche un peu le suspense.
C'est moins évident que les années précédentes, parce que les années précédentes, ils nous montraient le mec au téléphone 5 minutes avant et c'était encore pire. C'est vrai que là, il y a pareil, il y a des petits indices à chaque fois. Ryan Tannehill, donc, bonne affaire ou pas, est-ce que c'est un quarterback dans lequel toi tu crois?
Alors, moi, je suis confiant que Tannehill peut être un excellent quarterback. Et en partant de ce principe, un franchise quarterback, c'est jamais trop cher pour aller le chercher. Les Redskins ont payé le prix pour aller le chercher et je pense que c'était un prix pas trop cher. Quoi. C'est correct, c'est un franchise quarterback, il n'y a pas à réfléchir. Ils ont pris un risque, ils l'ont laissé tomber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas plus d'équipes qui ont encore besoin de quarterback, qu'on essaie d'aller chercher? Je pense aux Kansas City Chiefs, peut-être aux Arizona Cardinals ou aux Seattle Seahawks.
Ses qualités à Tannehill, c'est quoi?
Alors, ses qualités, c'est sa mobilité, c'est sa lecture, c'est sa capacité à lancer des tracés longs. Qui sont vraiment essentiels pour convertir des troisièmes tentatives. C'est un mec qui est intelligent, qui veut bosser. Il est arrivé en tant que quarterback à l'université, on lui a dit tu joues receveur, il a joué receveur, mais en même temps il travaillait dans la salle des quarterbacks justement pour faire cette transition. C'est quelqu'un qui a le mental en tout cas pour réussir et qui a tous les atouts physiques pour le faire. Il est un peu au niveau de Blaine Gabbert. Bon, j'ai pas envie qu'il ait la même saison que Blaine Gabbert cette année, mais personnellement, j'ai encore espoir dans Gabbert parce qu'il a tous les outils. Tannehill, c'est le même type de joueur.
En tout cas, Tannehill, déjà un grand professionnel, puisqu'il a répondu à notre confrère d'ESPN en ne disant absolument rien dans ses réponses, à part « je suis très content », comme tout le monde. Donc voilà, déjà très pro de l'interview. Donc, quarterback mobile, on peut dire un peu quand même.
Oui. C'est un quarterback qui utilise très bien la poche. Je ne sais plus si c'est Greg Cosell qui a dit que c'était le meilleur lanceur en mouvement de la draft et l'un des meilleurs à utiliser la poche, mieux que Luck, mieux que Griffin, pour lequel c'est un petit problème ce point de son jeu.
On a donc déjà trois quarterbacks qui sont partis en 8 sélections, c'est allé vite et il en reste plus qu'un qu'on attend au premier tour, ou peut-être deuxième, c'est pas sûr, c'est Brandon Whedon.
Il y a Brandon Whedon, on peut avoir une surprise avec un Brock Osweiler, mais j'y crois vraiment pas.
Alors Brock Osweiler, c'est celui, il sort de quelle fac il sort lui ?
D'Arizona State.
Est-ce que c'est celui qui a la faute d'orthographe sur son bras ?
Absolument, la faute d'orthographe sur son tatouage.
C'est, alors on a oublié de le mettre sur le site, c'est un joueur qui a un tatouage mais avec une, écrit avec une faute d'orthographe. Voilà. Donc à vous de juger si vous avez envie de donner les rênes de votre attaque à quelqu'un qui se fait tatouer avec des fautes d'orthographe. À moins que ce soit volontaire, on espère pour lui. Les Carolina Panthers sont on the clock et ils y sont même plus parce que apparemment ils ont sélectionné ou ils y sont proches. C'est ce que nous disent en tout cas les stats officielles de la NFL. Ce serait que le pic est dans la boîte. En tout cas, les Panthers donc se présentent avec pas mal de besoins aussi. Notamment au poste de defensive tackle, peut-être un petit corner.
Defensive tackle, corner, ligne offensive. Defensive end peut aider également, receveur. Il y a pas mal de besoins.
Et déjà là, Roger Goodell. Avec le 9e choix de la draft, les Panthers choisissent. Suspense, cette fois on n'a vu personne. Luke Kuechly, le linebacker de Boston College. Voilà, alors ça, c'est un des choix annoncés comme très solide de cette draft. On en avait parlé hein, dans les joueurs, dans le podcast qu'on avait fait la semaine dernière. Ça faisait partie des joueurs...
Des valeurs sûres.
Des ouais. valeurs sûres, voilà. Alors, Luke Kuechly, un linebacker de 20 ans qui sort de Boston College. 1m91 pour 110 kg. Stat en 2011, 12 matchs, 191 plaquages en 12 matchs. 12 plaquages pour perte, 3 interceptions, 1 touchdown. C'est la machine à plaquer, Luke Kuechly.
C'est la machine à plaquer, c'est surtout l'un des meilleurs à couvrir la passe en zone ou en man dans cette draft et dans même plusieurs drafts. Il sait tout faire. Il arrive dans le bon système avec Carolina parce que j'avais des doutes si on le mettait dans une 3-4 qu'il ne puisse pas gérer des linemen libres. Mais là, avec justement une ligne défensive de 4 personnes devant lui, il va pouvoir avoir la liberté pour faire parler ses capacités athlétiques et justement couvrir ou jouer le run.
Et Luke Kuechly, donc. Qu'on compare, alors que je viens d'entendre nos collègues américains comparer à Brian Urlacher.
Il y a beaucoup de similarités, en tout cas au niveau couverture, lecture et leadership.
Alors c'est ce qu'on avait dit aussi de lui, c'est peut-être qu'il a moins de marge de progression du coup, parce que c'est déjà un produit très fini, très poli.
C'est possible. Maintenant, il va passer d'un coaching staff de collège à un coaching staff de pro, donc il a toujours quand même une marge. On peut pas savoir.
Là, on est clairement sur la tactique. On prend le meilleur choix parce qu'ils avaient pas spécialement besoin de linebacker. En tout cas, c'était pas leur plus gros besoin, hein, parce qu'ils ont déjà John Bisson. Ils avaient déjà, j'ai pas le nom du deuxième, mais
Anderson.
Voilà.
Oui. En même temps, ils ont tendance à se blesser ces linebackers là. C'est bien d'avoir une assurance. Ils ont perdu Dan Connor qui était leur remplaçant, je pense, qui est parti à Dallas.
Ouais.
Ron Rivera a indiqué qu'il voulait le même type de leader ou du moins de joueur d'impact que Cam Newton en défense. Et je pense qu'ils l'ont obtenu avec Luke Kuechly. C'est un vrai leader qui pourra justement. Apporter une structure à cette défense.
Bon, ils ont le quarterback de leur défense. Qu'est-ce que ça en pense sur le chat ?
Alors, il y a deux réactions majoritaires. Tout d'abord, la surprise. Beaucoup pensaient que les Panthers allaient drafter un defensive end, Cox.
Cox, c'est un defensive tackle. Defensive tackle. Et je suis d'ailleurs surpris de le voir encore on the board au pick.
On avait Cox, enfin, on avait plus des joueurs, enfin, pas de linebacker en tout cas, puisqu'effectivement, la deuxième réaction, c'est que beaucoup. Par contre, en revanche, je trouve que du coup, là, on renforce encore du côté des Panthers les linebackers et que ça va être très très dur de passer contre eux à la course. Enfin, c'est ce qui se dit sur le chat, en tout cas.
Bon, d'autres remarques, n'hésitez pas à les transmettre, n'hésitez pas à transmettre tous vos messages. Raphaël relaye tout ce que vous dites, presque tout, parce que il peut pas lire non plus tout, mais il transmet et on revient vers lui régulièrement. Voilà, donc c'est maintenant au tour des Bills d'être on the clock pour compléter le top 10 de cette draft 2012. Déjà, ça va vite, ça va très vite parce qu'on a beaucoup d'actions dans cette draft et on s'en plaint pas. La mock draft du site, elle annonçait Luke Kuechly. C'est trop tard, il est parti.
Et les dernières infos pré-draft étaient pour Mark Barron, hein, donc on a vraiment très peu d'idées.
Et bah écoutez ce petit jingle. Et voilà, il est déjà là, Roger Goodell. On vous disait que ça va vite. Les Bills ont choisi, avec leur choix, le dixième. Ils sélectionnent Stephon Gilmore, le cornerback. Et voilà, on parlait de Stephon Gilmore il y a quelques secondes d'ailleurs, hein, je ne sais plus où tu l'avais annoncé, mais ce sera donc un cornerback.
À Tampa.
Voilà, on l'avait annoncé peut-être à Tampa. Donc Stephon Gilmore, le cornerback qui sort de South Carolina. Alors, est-ce qu'on peut parler de surprise ? C'était vraiment un besoin, cornerback, pour les Bills ?
Ils avaient sélectionné un cornerback, je pense que c'était en 2007, qui n'a pas vraiment fonctionné. Ils ont toujours Terrence McGee, mais qui commence à vieillir.
Alors, Stephon Gilmore, 1m83, 86 kg, un junior de 21 ans, on l'a dit, South Carolina. En 13 matchs la saison dernière, il a totalisé 46 plaquages, 3 plaquages pour perte, un sac, un fumble forcé et 4 interceptions. Les Bills renforcent donc leurs lignes arrière. C'est pas forcément inutile quand on joue dans la division de Tom Brady.
La division de Tom Brady, ouais.
Oui, en fait, j'ai arrêté là parce que j'ai.
Parce qu'en fait, Ryan Tannehill ou Mark Sanchez sont un peu moins effrayants.
C'est vrai qu'après Ryan Tannehill, Mark Sanchez et Tim Tebow, bon, il faut des cornerbacks qui peuvent aller chercher les ballons dans les tribunes avec Tim Tebow.
Le fullback lanceur.
Bon, très bonne réplique d'ailleurs, j'ai entendu dans le Rich Eisen podcast, dans son générique de début maintenant, il a un mec qui dit moi j'adore Tim Tebow parce qu'il arrive à combiner les qualités de leadership de Ray Lewis et les qualités de lancer de Ray Lewis. Voilà. Donc j'allais dire Terrence McGee, Stephon Gilmore, donc le cornerback est avec Roger Goodell, le petit maillot et tout ce qu'il faut. Stephon Gilmore, ses qualités un petit peu.
Alors si vous voulez des comparaisons de joueurs, c'est un mélange entre Rashan Matisse et Asante Samuel, c'est-à-dire un joueur de zone qui tente un petit peu, qui est un peu joueur et qui est polyvalent sur ses couvertures. C'est un bon plaqueur. C'est quelqu'un qui est physique. Il a beaucoup joué en zone à South Carolina. Je ne crois pas que c'est son jeu. Il est plus un joueur de man. Et en tout cas, c'est vraiment ses lectures et le fait qu'il génère beaucoup d'interceptions, qu'il est bon en blitz. Il est polyvalent.
Est-ce que, comme Asante Samuel, il peut relâcher une interception potentielle qui t'aurait fait gagner le Super Bowl ?
Ça peut arriver maintenant, c'est des joueurs différents, c'est des comparaisons pour vous donner une idée, mais c'est un joueur, c'est un gambler, c'est un parieur.
Raphaël en rit encore car ce Super Bowl a été gagné par les Giants en 2008. On vous rappelle le top 10 puisqu'il est maintenant bouclé, les Colts avec Andrew Luck, le quarterback, Redskins, Robert Griffin, quarterback, les Browns avec Trent Richardson, running back, les Vikings avec Matt Khalil, offensive tackle, les Jaguars, Justin Blackmon, wide receiver, les Cowboys avec Maurice Claiborne, corner, Mark Barron, un safety, les Buccaneers en 7, Dolphins, Ryan Tannehill en 8, Luke Kuechly, les Panthers en 9 et Stephon Gilmore, les Bills en 10. On va marquer une petite respiration. On se retrouve pour la deuxième partie de notre podcast live pour la draft.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.